De retour en compagnie de notre collègue Esther Hardy. Esther, comment allez-vous?
Ça va très bien, François, et vous?
Ça va bien, merci, comme moi. Peut-être avez-vous pelleté toute la matinée de samedi?
Un petit peu, j'avoue.
Oui, voilà, un petit peu, exact. Mais, que cela ne tienne, vous avez fait pour nous un peu le tour de la planète.
Oui.
Et on commence en Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne, on a une très belle nouvelle. En fait, ça commence par une mauvaise nouvelle dans le sens que les chiens guides ont eu une rareté ces derniers temps parce que pendant la pandémie, il y a eu une période de 5 mois où on n'a pas pu les entraîner.
Ah.
Et on n'a pas pu non plus aller chercher du repêchage, j'allais
oui,
dire.
D'accord.
En plus, c'est que dans le processus pour passer les examens pour devenir un chien guide, en fait, normalement, c'est 65 % des chiens qui réussissent.
Oui.
Et cette fois, ça a été 50 %.
Ah, d'accord. Donc, une pénurie de chiens guides
voilà,
en Grande-Bretagne.
Une attente de 18 mois.
Oh.
Et il y a une dame hein, qui s'appelle Isabelle Oldsworth, qui, elle, a besoin d'un chien guide à temps plein. Lorsqu'elle va travailler, elle fait une marche de 40 minutes et elle prend 2 métros. Donc,
oui. Tout d'un coup, pas de chien guide. Parce que je pense que le chien guide qu'elle avait est décédé.
Voilà. Du
alors
jour
là,
au lendemain,
tout d'un coup, elle était démunie.
Elle s'est retrouvée sans chien guide.
Abigail Hughes, elle, a trouvé une solution.
Ben, en fait, c'est ça. C'est que Isabelle a essayé une journée de se rendre au travail avec sa canne blanche, mais elle presque tombée dans le métro. Elle s'est rendue compte que c'était vraiment beaucoup trop dangereux. Donc, elle s'est reprise, puis là, elle s'est demandé de quelle façon elle pouvait peut-être elle-même entraîner son propre chien. Et c'est là qu'elle a rencontré Abigail. Ensemble, ils ont établi que c'était possible d'entraîner son propre chien. Donc, elle a pris une semaine de congé. Elle s'est attelée. Elle a fait des exercices très drôles. La première exercice qu'elle a fait à son nouveau chien, en fait, qu'elle a trouvé dans un refuge, je pense que c'est un labrador d'un an, un beau petit chiot, c'est qu'elle l'a emmené dans son quartier qu'elle connaissait par cœur où est-ce qu'il y avait un gros lampadaire.
Elle a fait
par exprès.
Elle a fait par exprès, comme si elle allait faire un face-à-face. Alors là, le chien a bien réagi.
En fait, pas la première fois. La première fois,
voilà.
Foncé dans le lampadaire.
D'accord.
Mais elle a vraiment amplifié son malaise, puis elle faisait semblant qu'elle faisait très
alors,
mal.
Le chien, avec empathie, a bien... Mais il y a un risque tout de même à cette idée de l'auto... éducation du chien, parce qu'il faut qu'au départ, on sélectionne un chien qui a des caractéristiques empathiques, de calme, d'absence de stress dans des milieux bruyants ou très animés. Moi, ça me donne un peu, quand j'ai lu cet article-là, j'avais un peu l'impression de quelqu'un qui apprenait à conduire par soi-même en disant « Ah ben, je vais monter au volant à bord d'une auto, je vais prendre le volant puis je vais finir par comprendre moi-même comment ça marche. »
Oui, mais néanmoins, elle a été quand même très, très bien conseillée.
Oui.
Et j'avoue qu'on doit ajouter une information importante, c'est que ses employeurs étaient très compatissants parce qu'elle a emmené son chien la première journée puis il a défait les cloisons.
Oui,
il a mangé
les
fils électriques, il a tout fait. Mais bon, ça s'est calmé par la suite.
J'ai l'impression un peu de penser que c'est une situation où parfois l'exception confirme, là.
Oui.
Mais peut-être... Je dirais aux personnes handicapées visuelles qui nous écoutent, peut-être ne pas aller tout de suite à la Société protectrice des animaux, vous prendre un chiot puis commencer
à
le dresser.
Comme on dit, ouais.
J'aurais des hésitations. Savez-vous, par ailleurs, que dans le sud-est des États-Unis, il existe des poneys guides? Des gens entraînent des poneys, c'est-à-dire des petits chevaux, là, des chevaux de petite taille, qui ont l'avantage de vivre 2 fois plus longtemps que les chiens.
Ah.
Et en plus, ben, ils font votre gazon parce qu'on les garde dehors.
Ils broutent là.
Ils broutent votre terrain, on les garde dehors. Évidemment, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Mais effectivement, et je ne blague pas, il y a en Virginie une école de poney guide.
Ah, c'est intéressant.
Il y a des gens qui ne jurent que par eux.
Ben moi, je trouve ça merveilleux ce qui est arrivé ici à la dame qui s'appelle Isabelle, parce que finalement, en 2 ans, elle a réussi à former son chien.
Son chien, bravo.
Puis c'était impeccable. Puis elle a dit que c'est le meilleur chien guide qu'elle avait jamais eu. Elle avait quand même de l'expérience. C'était son sixième chien guide.
Oui, tout à fait. C'était pas
donc,
une néophyte. Puis,
oui, voilà. Puis écoute,
elle savait un peu c'était quoi le processus.
En très peu de temps, en fait, son chien, parce qu'on sait que le danger maintenant, c'est les voitures électriques.
Oui.
On ne peut pas les entendre.
Oui, on ne les entend pas. Il faut les voir.
Il faut les voir.
Même si elles font un peu de bruit.
Donc, son chien, malgré le fait qu'elle voulait traverser la rue,
Oui, ben, il est capable de faire ce qu'on appelle une désobéissance. Hein?
Oui,
c'est-à-dire
voilà.
Qu'il dit non, ne traverse
intelligente.
Pas. Voilà, et voilà. Mais encore c'est une fois, il faut, faut commencer avec le bon chien. Voilà. Mais cela dit, Alban Thomas, notre chroniqueur, serait fier de vous parce que vous avez trouvé une application des lunettes pour
les trois
qui nous permettent à des personnes handicapées visuelles d'avoir une assistance en temps réel.
N'est-ce pas merveilleux? En fait, le jeune homme s'appelle Bilal Zaidi. Le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Blind Up.
Ah, ben oui, c'est en France, c'est sûr. La compagnie a un nom anglais.
Ça s'appelle en anglais.
C'est normal.
En fait, c'est que lui est natif du nord de l'Afrique et il y a un frère qui est aveugle. En fait, qui a une personne vivant avec un handicap visuel et son frère le guide constamment. Donc, ils se tiennent par la main, ils l'amènent partout. Et puis, Bilal trouvait vraiment ça épouvantable qu'ils puissent jamais vivre l'un sans l'autre. Alors, quand il est parti en France pour faire sa formation en informatique, il a tout de suite demandé à deux de ses copains et il a pensé à l'idée géniale d'une paire de lunettes électroniques qui est, elle, branchée à quelqu'un qui est à son ordinateur et qui se fait guider par des caméras intégrés dans les lunettes.
Oui, ben en fait, c'est un peu comme l'application Be My Eyes.
Ah oui, OK,
mais
je
au lieu d'utiliser
pas.
La caméra de son téléphone, on a ça sur le bout du nez.
D'accord.
Donc, on a les mains libres.
Ah, d'accord. Mais voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'avec ces lunettes-là, il peut aller... La personne qui a un déficit visuel peut aller absolument n'importe où avec sa canne. Donc, encore là, elle a la liberté de tenir sa canne dans ses mains. Ça, c'est merveilleux. Et la personne qui est soit à son ordinateur, soit ça peut être un bénévole ou une personne engagée par Blind Up. Là, il y a quand même des gens pour ça. Là, c'est un abonnement, finalement, qui peut guider la personne à faire absolument n'importe quoi. Oh. Parce que les lunettes sont vraiment de grand angle, très large, une vision très, très large. Donc,
Ça permet à ce moment-là de décrire le milieu.
Voilà, exactement.
Et ça peut aussi avoir un aspect ludique, pas juste de sécurité, là, mais ça peut aider aussi. Alors, mais ça permet une plus grande liberté de mouvement parce que de tenir le coude de quelqu'un et d'une main puis de l'autre la canne, ben c'est sûr que ça nous empêche un peu de nous mouvoir comme on veut.
Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment fabuleux. Donc,
le Blind Up, qui est le nouveau, qui est cette appli-là, le Blind Up est encore au stade de start-up.
Exactement.
Bon, ben d'accord, mais on va les suivre.
Oui, en fait,
on va faire un follow-up.
On va faire un follow-up.
Ouais, voilà.
Ça va sortir en 2024.
Parfait. Bon, on va voir ça. En parlant de choses qui sortent, il y a une enseignante qui habite en Alsace, à Mulhouse, Madame Laure Chescouti, qui est une créatrice et qui commence qui va mettre en ligne des podcasts amusants.
C'est très intéressant, n'est-ce pas? En fait, elle l'a déjà fait. C'est sa deuxième saison qui va sortir le 13 janvier, en fait, qui est sortie vendredi dernier. Cette dame-là, elle est elle-même handicapée dans la vie de tous les jours. Donc, cette série-là qu'elle a déjà sortie, en fait, là, elle va sortir la deuxième, comme je disais tout à l'heure.
C'est des podcasts amusants, là.
On parle,
c'est de la comédie, là.
Le quotidien.
C'est pas des trucs tristes ou lourds. Et les épisodes, en fait, la série s'appelle Alors.
Ouais.
Alors, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, hein, comme on pourrait penser l'expression spontanée de quelqu'un qui dit ah, ben oui, j'ai un handicap, et alors. Et ce sont des petites capsules qu'elle a faites. Avec ses amis, parce qu'il faut dire que Mme Chescouti a fait, en plus d'enseigner à l'école, c'est sa profession, en plus, elle fait du théâtre d'improvisation.
Oui, voilà, elle fait de l'art. Et puis même, je pense qu'elle est membre du Conservatoire d'art dramatique de Mulhouse.
Ouh, d'accord.
Puis elle chante dans un groupe de jazz. Donc, mais elle voulait aller plus loin, malgré tout, les efforts qu'elle doit faire qui sont plus qu'une personne qui n'a absolument aucun handicap, voilà. Puis elle dit que le public, elle aimerait que le public dise « OK, c'est comme ça pendant 3 minutes, mais qu'est-ce que ça doit être pendant toute la journée? »
Oui. Ben, elle a quand même le sens de l'humour, là, parce que ce sont des situations qui se vivent dans le quotidien. Et ça, c'est sur une chaîne YouTube. On peut retrouver ça sur YouTube.
C'est
on
ça, pitonne, exactement.
Alors, et là, on peut retrouver toutes les petites capsules qu'elle a mise en onde, mais on espère qu'il y en aura d'autres aussi.
Oui, puis hein? Elle dit qu'elle les a vécues pour la majorité. Ça fait qu'imaginez.
Ah, oui. C'est des histoires vécues qu'elle traduit comme ça. En parlant d'histoires vécues, il y a deux amis qui sont allés faire de l'alpinisme.
Oui, c'est très particulier cette histoire-là. Moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est au Luxembourg, en fait. C'est un monsieur qui est, lui, ostéopathe. De 58 ans, avec un
handicap visuel, exactement. Je pense qu'il est totalement aveugle.
Oui, tout à fait, totalement aveugle. Et il rêvait depuis toujours de faire l'ascension du Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain. On le sait, c'est 5895 mètres de haut, quand
oui,
même.
Oui, donc à cette altitude-là, donc il y a des problèmes d'oxygène, ainsi de suite. Là, c'est pas une randonnée de week-end.
Non, pas du tout. Et à un moment donné, il a partagé ça avec Mathieu Marinelli, qui est un de ses clients. Donc, comme il est ostéopathe, il jase naturellement avec ses patients. Et puis, celui-ci, Mathieu, s'est dit, ben moi, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air, mais j'y vais avec vous.
Oh, d'accord. Alors, Mathieu l'a accompagné.
Oui, Mathieu, c'est un salarié de la finance à Luxembourg. Donc,
le Luxembourg est une capitale financière en Europe. Là.
Mais voilà.
Oui, voilà.
Voilà. Donc, il a voulu monter le Kilimandjaro avec lui. Ils ont fait ce qu'il faut, puis ils ont vraiment fait des exploits. C'est fou. Oui. Je vais vous lire un petit bout de ce qu'il dit. « Quand il m'a demandé si ça m'intéressait, je n'ai même pas réfléchi. J'ai tout de suite accepté, même si je ne savais même pas où situer sur une carte le Kilimandjaro.
» Oui, d'accord. Bon, ma première surprise, là, c'est pas là, au coin de rue. OK.
Et le monsieur en question, il s'appelle Abdel, a fait preuve d'une force mentale incroyable. Mm-hmm. Ce dernier épate tout son monde au moment de gravir l'impressionnant mur du Baranco. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais j'imagine que c'est un des passages les pires.
Oui, c'est pas de la tarte.
C'est ça. C'est une paroi rocheuse de plus de 100 mètres de haut. Sous les yeux ébahis de leur guide, il a dépassé plusieurs groupes de personnes valides. Les guides n'avaient jamais vu ça. Donc, il a même été meilleur que la majorité des gens.
Bon. Et puis là, maintenant, ils projettent ensemble. Hein, ils vont aller faire la Aconcagua.
Voilà. En Argentine.
En Argentine, qui est le toit plus haut sommet en Amérique du Sud. Ben, alors, on leur souhaite bonne chance. Je connais des gens qui ont fait la Aconcagua. Et ils ont fait le Kilimandjaro. Et c'est pas la même chose.
Non, pas du tout.
La Aconcagua, c'est comme... Une coche en haut, mais enfin, on leur souhaite bonne chance. Puis déjà, ils sont aussi ici, préparent.
Mais le Kilimandjaro, j'avoue que c'est quand même une grosse étoile.
J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que la Aconcagua, c'est plus difficile encore. Voilà. Mais le Kilimandjaro, c'est 6 jours de marche, l'ascension.
Wow.
Encore une fois, il y a la difficulté de l'oxygène.
Iriez-vous, François? Iriez-vous?
Pardon?
Iriez-vous?
Ben moi, on m'a déjà proposé de faire le Kilimandjaro il y a de ça à peu près 12 ou 15 ans. Et à ce moment-là, les gens qui me proposaient de le faire n'avaient vraiment pas l'habitude de savoir comment se comporter avec quelqu'un qui avait un handicap visuel. Alors, bien que...
C'était pas les meilleures personnes pour aller avec vous.
J'ai été en mesure de le faire d'un point de vue physique. Je me suis dit, si je le fais, ça va être une distraction pour eux. Puis j'ai préféré ne pas y être.
Oui, c'est bien, voilà, vous avez bien fait.
J'ai fait beaucoup de randonnées pédestres et d'ascension quand j'étais plus jeune. Voilà. Cela dit, en Israël, Uri Yitzhak Shor, il vient de payer son certificat de grand rabbinat.
Oui.
Mais ce qui est assez exceptionnel, surtout que dans ces circonstances-là, c'est peu fréquent. Yuri vit avec une situation de paralysie cérébrale assez sévère.
Oui, voilà. Et puis, naturellement, on a des préjugés. Le milieu des études, où est-ce qu'ils voulaient faire ça, c'est pas...
C'est des préjugés. C'est des gens qui ont une vision plutôt traditionnaliste et peut-être, à prime abord, d'avoir un rabbin qui avait une paralysie cérébrale. Ils trouvaient ça peut-être... inconcevable.
Inconcevable.
Ou difficile à réaliser.
Et mais en même il... temps, oui. il y a toute une tradition derrière, parce que c'est quand même l'élite en Israël oui. qui va devenir rabbin.
C'est pas donné à tout le monde.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quelqu'un qui se donne ce défi-là, puis qui a déjà un handicap, puis pour eux, il y a quand même, enfin, on n'ira pas là, mais c'est quand même une mentalité qui se veut... élitiste, en
D'accord.
général.
Alors, donc, mais là, lui-même dit, ben, j'ai beaucoup étudié.
Voilà.
Puis en fait, il a trouvé que sa situation lui a été favorable, parce qu'il dit, moi, je vis plus lentement que les autres.
Oui,
donc, comme je vis
plus
lentement que les autres, j'ai eu plus de temps à moi-même à consacrer à la réflexion puis à mes études. Puis c'est en fait, en utilisant son rythme de vie différent, qu'il a été capable de... je dirais, de réussir ses études.
Puis
et ce n'est pas donné à tout le monde.
Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis il dit, en fait, certes, je suis handicapé, mais j'apprends vite et ma mémoire est très bonne.
Voilà.
Je me souviens par cœur de tout ce que j'ai appris dans la Bible et la Guémara. À ce jour, j'ai terminé le Talmud 12 fois.
Bon.
Et un de ses buts principaux, si je peux me permettre de rajouter ceci, c'est que... des personnes handicapées en Israël, on comprend mieux, en fait, compte tenu de sa situation, ils comprennent mieux vraiment
oui.
leur lutte. Et
exact.
C'est pour ça qu'il n'y avait pas de rabbin en Israël qui avait des handicaps. Donc, pour lui, c'est vraiment...
il était en mission.
Voilà, exactement.
Ben, bravo.
C'est merveilleux.
Avant d'aller plus loin, Esther, on avait promis ça à tout le monde la semaine dernière. On parlait des... activités de la Fondation INCA. Et je m'en voudrais beaucoup que nous les oublions aujourd'hui dans le grand tourbillon de tout ce que vous nous avez rapporté.
Oui, alors, d'ailleurs, c'est le bon moment pour s'inscrire. Donc, mieux vaut en parler tout de suite pour s'assurer que tout le monde ait le temps de le faire. Hein? Donc, c'est de l'art adapté avec la Place des Arts. Ben, d'abord, on a des cours d'autodéfense, une offre incroyable, disons-le, de la Fondation INCA, qui offre une série de cours d'autodéfense accessibles et pensés par les personnes avec un handicap visuel. Donc, c'est très bien fait. Au total, 10 rencontres sont prévues pour s'initier, développer un bagage technique, tactique et psychologique dans le but d'assurer sa sécurité personnelle. Hey, c'est
bien,
le
parce
fun,
que je dois
ça.
Vous dire, quand vous vous promenez sur la rue le soir et que vous avez une canne blanche, vous dites... On peut peut-être penser que les gens vont avoir une bonne volonté à notre endroit, mais aussi on peut se dire, ben, on est une belle cible. Hein?
Ouais.
Si on est porteur d'un portefeuille, ça va être facile de nous bousculer, de prendre notre argent, puis entre guillemets, on ne sera pas capable d'identifier le coupable. Alors,
rassurant.
Donc on sent vulnérable quand on est handicapé visuel.
C'est beaucoup plus rassurant. Et c'est important
d'apprendre ça. Alors, ces cours vont être donnés par une athlète professionnelle, une judokate paralympienne. Aha! Donc... elle connaît elle-même de quoi elle parle. Alors,
voilà,
Priscilla Gagné. Et elle vit même avec une perte de vision. Donc, elle est capable justement de pouvoir aider les participants dans ce cours d'autodéfense. Ce sont les samedis.
Oui, les samedis de février, le 4, le 11 et le 18. Toujours le samedi en mars, le 4, le 11, le 18 et le 25. Et en avril, le 1, le 8 et le 14.
Oh, ça fait beaucoup de cours.
C'est 10 rencontres.
Oui, c'est ça. C'est de 15 à 17 heures.
On doit prévoir, par contre, un 30 minutes avant et après chaque séance. J'imagine c'est pour se changer,
Il faut mettre des baskets ou se mettre pieds nus, là, mais il doit y avoir quelque chose. Ça a lieu à un club de judo.
Oui, au 4240 rue de Bordeaux à Montréal. Les frais sont de groupe, donc le prix individuel variera en fonction du nombre de personnes inscrites.
Ben, moi, je trouve ça une excellente initiative. Il y a certainement un besoin de se sentir confortable ou en sécurité ou confiant quand on est en situation d'handicap visuel. Et que ce soit donné par une personne qui elle-même vit avec une perte de vision, ben tant mieux. Ça me rassure. Et je pense qu'après 10 après-midi comme ça, là, on va avoir des meilleurs moyens.
Oui, bien équipé pour sortir.
On revient à la Place des Arts. Oui.
Oui, alors on a une formation en radio amateur. C'est quand même intéressant. C'est la Fédération des clubs de radio amateurs du Québec, en collaboration avec la Fondation INCA toujours, qui offre aux personnes avec une déficience visuelle la possibilité de suivre un cours de radio amateur en ligne, et ce, gratuitement, pour devenir radio amateur et obtenir un certificat d'opération radio. C'est pas rien,
ça. Ben, oui, tout à fait. Puis avec ça, on peut se faire des amis partout dans le monde.
Le cours est en ligne et peut être suivi selon votre rythme. Donc, il se compose de plusieurs modules. La durée variera selon votre rythme et vos capacités d'apprentissage. Si vous le désirez, vous pouvez également être parrainé par un club radioamateur de votre région.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est, encore une fois, ça permet de rencontrer des gens partout dans le monde.
Hein, c'est
merveilleux. De partager des gens ordinaires qui vivent des situations quotidiennes. Et ben, quand on fait de la radio amateur, ben l'aspect du handicap visuel, là, ben, c'est plutôt secondaire à ce moment-là, mais ça peut devenir un sujet de conversation. Je reviens à la place des arts parce que ça me semble important. On parle d'ateliers de danse animés par un ou une professionnelle afin d'initier, de permettre de développer une courte prestation. Oh là là!
Mais je pense qu'il est trop tard, malheureusement,
oh,
François, pour
ça
s'inscrire.
Ça commençait mardi 10, hein?
Ouais.
Ah, ben voilà, c'est ma faute. Voilà, je vous ai mis l'eau à la bouche et puis je vous retire l'assiette de sous le nez.
On a autre
chose, par contre. Je ne dis plus rien.
On a des séances de jeu sur Zoom aussi.
Ah, d'accord.
Qui vont commencer lundi le 23 janvier jusqu'au 6 mars, soit aux deux semaines, en fait.
Ah, ben ça
non,
va être...
Ça.
Bon, ça, vous pouvez y aller. Je m'excuse pour la danse. Désolé. Ça, on va se reprendre, mais peut-être quand il y aura la prestation devant le public, tout ça, on pourra en reparler de nouveau. Il y a eu la semaine dernière à Saskatoon, pour les enfants handicapés visuels de la région de Saskatoon, il y a eu une belle découverte. Hockey Sonore Canada a permis à une quinzaine de jeunes d'aller patiner,
voilà,
et de découvrir le hockey à Saskatoon, et c'était comme une première dans cette région-là.
Oui, exactement. En fait, c'est qu'en ce moment, il y a 14 programmes de hockey pour personnes avec un handicap visuel qui sont en place au Canada, mais il n'y en a aucun à Saskatchewan. Donc, ceci étant une première, on a en fait... C'est des jeunes vivant avec un déficit visuel qui ont eu l'occasion de chausser les patins et de sauter sur la glace mardi à l'occasion de l'événement Try Skating and Blind Hockey à la place Merlis Belcher de Saskatoon.
Bravo.
En fait, c'était 15 participants âgés de 4 à 18 ans qui se sont inscrits à l'activité qui leur a permis d'apprendre à patiner et à jouer au hockey. Et c'est, en fait, le club de hockey sur place de l'Université de Saskatchewan.
Les parrains, tout ça.
Ben oui, c'est merveilleux.
Malheureusement, en parlant de hockey, votre humble serviteur ici ira jouer au hockey adapté pour personnes handicapées visuelles la semaine prochaine à Toronto.
Nous
ne serons pas avec vous lundi prochain, mais je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que dimanche, le 29 janvier, de 9 à 13h30, au pavillon Desjardins de l'Université Laval, ce sera le Salon Alzheimer Québec. Après 2 ans de pandémie, le traditionnel Salon Alzheimer revient en présentiel. Ça va permettre de rencontrer toutes sortes de gens qui sont dans le milieu, de faire connaissance, d'apprendre des plus récents développements et en même temps de partager le vécu des proches aidants.
Avec les avancées technologiques qui est vraiment
toutes sortes de choses qui vont pouvoir être discutées. Alors, c'est le 29 janvier, pavillon Desjardins, Université Laval. Merci beaucoup, Esther.
Merci.
On se retrouve dans une quinzaine.
Oui.
Merci à Mathieu Tessier qui n'arrête pas de nous souffler à l'oreille et qui nous aide beaucoup à respecter l'horloge, voilà, qui est malheureusement nous indique que c'est la fin.